et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début. Mais c'est pas une heure pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio. Et si on posait les valises un instant, pas dans un lieu, non, dans une époque, 1925. J'ai d'ailleurs toujours pensé que les années folles portaient mal leur nom, parce qu'au fond, c'est pas la folie qu'on y cherche, c'est l'élan. Une époque où l'on danse pour oublier la guerre, où les idées bouillonnent, où les femmes lèvent la voix, ça s'agite et ça danse autrement. Et si le théâtre, même amateur, était le plus beau des passeports temporels, dans cette pièce dont on va parler aujourd'hui, il y a des suffragettes, des poilus, des surréalistes, des bretonnes venues en ville, il y a des destins minuscules, et désespoir majuscule. Mais surtout, il y a 14 personnes d'aujourd'hui, pas comédiennes de métier, mais habitées d'un désir immense de dire, de faire ensemble, de raconter autrement. Alors ce spectacle s'appelle 1925 au comptoir des années folles, il est né à Château-Gontier et il sera joué ce week-end à la Chalibaude. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Virginie, autrice et metteuse en scène de la compagnie des Deux Rives. Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Margot.
Alors dans la seconde partie d'émission, on changera d'époque mais on restera à hauteur d'humain. Cette semaine dans le reportage Pensée Locale, direction les rives de l'Erdre à Nantes, une promenade, un micro en bandoulière et une question essentielle, comment reconquérir la santé d'un fleuve et de tout ce qui l'entoure. Alors notre confrère Michel Sourget d'Alternante FM a suivi Youen Fénard, directeur du syndicat mixte Eden, comme entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel. Ensemble, il nous parle de qualité de l'eau, de biodiversité, de berges, mais surtout d'une vision globale, celle d'un bassin versant comme un tout vivant. Ce sera tout à l'heure en seconde partie d'émission. Alors oui, à vous entendre, vous pourriez croire, à nous entendre, vous pourriez croire que je suis avec Maxime aujourd'hui. Mais non, Maxime garde un œil sur les ondes ou une oreille depuis notre studio Lavallois. Cela dit, je ne suis pas seule pour cette émission. À mes côtés aujourd'hui, il y a Manek qui fait ses premiers pas aujourd'hui à l'autre radio pour un stage de 4e, et c'est lui qui aura donc la mission délicate mais réjouissante de nous lancer les pauses musicales tout au long de cette émission. Bonjour Manek, est-ce que ça va cette première matinée à la radio ?
Oui, ça va.
Ça se passe bien. En tout cas, je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Je me sens moins seule pour commencer cette journée. Bienvenue à vous, amis auditeurs. Vous écoutez votre émission quotidienne, l'Agité du local. Vous êtes évidemment les bienvenus. Mettez-vous à l'aise, le ciel est gris, mais il fait chaud. Et surtout, c'est le moment de passer à l'entretien du jour.
Bah, tu écoutes quoi, là ?
Chut ! C'est l'Agité du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio. Nous sommes en 1925, ou presque samedi et dimanche. C'est au cœur des années folles que la compagnie des Deux Rives vous invite à plonger à travers une pièce collective portée par 14 comédiennes et comédiens amateurs. 1925 au comptoir des années folles, c'est le fruit d'une année d'atelier menée à Château-Gontier, un cabaret théâtral où se croisent un ancien poilu, une suffragette, des surréalistes, des immigrés bretonnes, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Entre humour et émotion, cette pièce interroge les révolutions de l'époque tout en faisant résonner certaines questions très actuelles. Alors à l'occasion de cette représentation, de ces représentations à la Chalibaude, nous recevons aujourd'hui, je vous le disais, Virginie, metteuse en scène et autrice de la pièce. Virginie, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que peut-être, pour commencer, tu peux nous raconter comment est né le projet de cette pièce, mais aussi nous donner peut-être quelques mots sur la compagnie des Deux Rives, qu'on connaît quand même assez bien dans cette émission.
Alors, les Deux Rives existent depuis plus de 40 ans maintenant, et moi, je les ai rejoints en septembre dernier. Donc, je suis la dernière arrivée, voilà. Alors, cette pièce, en fait, est née de la rencontre avec les personnes qui font l'atelier. C'est-à-dire que le groupe, il y avait des anciens, il y a des nouveaux qui sont greffés, puis il y a des gens qui sont arrivés un petit peu au fur et à mesure jusqu'à la Toussaint. Et donc voilà, moi je me suis retrouvée 14 adultes et je me suis dit bon, et maintenant qu'est-ce qu'on raconte ? Et comme ce sont 14 adultes avec des personnalités vraiment multiples et variées et avec des envies différentes, je trouvais que se mettre dans un café permettait les rencontres, permettait une diversité de personnages. Et 1925, tout simplement parce que j'aime travailler sur une époque. Et que là, 1925, on est sur un centenaire, avec quelque chose vraiment d'intéressant parce qu'on était à un tournant entre la Première et Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui s'est passé en révolution culturelle, en évolution du droit de la femme, etc. On en parle dans le spectacle, 1925 est la première année où les femmes ont eu le droit de vote uniquement municipal. Mmh. Mais c'était effectivement la première année. Mmh. Et donc, ça permettait de raconter l'avant et de donner des prémices de ce qui peut se passer après. Nous, on le sait, mais eux ne le savent pas en 1925. Mmh. Et donc, c'est ce croisement de tous ces parcours qui est très intéressant.
Alors, on sent justement une volonté de faire dialoguer les mémoires, les luttes à travers les personnages. Comment est-ce que tu as construit chacune de ces trajectoires ? Comme tu disais, tu avais une diversité de profils parmi les comédiens qui étaient là pour jouer une pièce. Comment est-ce que toi, tu as construit les différentes trajectoires, ces différents personnages ?
Alors d'abord, ça a été un très gros travail de recherche sur l'époque. Qu'est-ce qui se passe en 1925 d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel ? Qu'est-ce qu'on écoute comme chanson ? C'est les débuts. Alors là, la radio, pour le coup, c'est les débuts. Vraiment, la grande diffusion, ces radios-là qui est dans un préfabriqué, enfin une cabane en bois, on n'appelait pas ça un préfabriqué à l'époque, dans une cabane en bois au pied de la Tour Eiffel. C'est vraiment le début de tout ça. C'est le début aussi, enfin le début des suffragettes, c'est suite à la Première Guerre mondiale. En fait, tout ce travail aussi de recherche, mais aussi quelles ont été les inventions. Comment on vivait à cette époque ? Comment on vivait à Paris ? Comment on vivait en province ? C'est pas la même. D'où aussi nos deux peines sardines. Donc les peines sardines, j'en parle un petit peu parce que j'ai trouvé ça juste génial. Je ne connaissais pas du tout avant. En gros, ça se passe à Douarnenez. Il y a des sardinières. Elles sont 2000 dans la ville. Elles font vraiment tourner les entreprises. Clairement, les hommes sont en mer, les femmes sont à l'usine. Et puis, évidemment, elles sont exploitées. Et du jour au lendemain, elles sont 2000 à se réunir. Et c'est parti. Et il se passe quelque chose et elles réussissent, au bout de plusieurs jours de grève, à faire... abdiquer les patrons. Elles ont été augmentées, leurs salaires ont été augmentés, sans syndicat, sans rien du tout. Et ces petites tranches de vie-là qui amènent à des droits sociaux qui augmentent tout au long du siècle, c'est intéressant de les raconter. Mais il n'y a pas que ça.
Voilà, on a pu voir, il y avait vraiment une diversité de personnages. On se dit, mais comment est-ce que, qu'est-ce qui peut se vivre entre eux ? Ce croisement attise forcément un peu la curiosité. Quelle a été la place des comédiens, des comédiennes dans l'écriture, dans la mise en forme de tout ce que toi, tu as projeté sur eux ?
Alors, c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée. Moi, je fais mes recherches. J'écris un bout de texte. Et là, depuis début janvier jusqu'aux vacances de février... Toutes les semaines, j'arrivais avec un texte que j'avais écrit, ils le jouaient, on essayait, je regardais comment ça se passait, je retournais à la maison, je réécrivais, on refaisait les modifications, et ça sur 5-6 semaines, pour arriver au produit fini en fait. Ce qui permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va à la personne qui le joue, ce qui ne va pas, et d'affiner au fur et à mesure. Et donc eux, avec leurs suggestions aussi, ça me permet, 1925 par exemple, c'est la mort d'Éric Satie. Donc il y a une des comédiennes qui tenait vraiment à ce qu'il y ait un morceau d'Éric Satie dans le morceau, dans la pièce, pardon. Et donc c'est vraiment ce travail d'échange et d'idées où eux vont suggérer, il y a une part de texte, une part d'impro, et ça m'inspire en fait. Et donc c'est vraiment une, je vais pas dire une co-écriture, mais une co-invention. Voilà.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force singulière d'un groupe amateur qui joue ensemble ? On a tendance à valoriser un peu plus les groupes, les troupes professionnelles, et finalement il y a une vraie magie qui se passe dans le théâtre amateur, je trouve.
Ah, moi, je pense que je peux mettre un mot sur l'année, ou vers deux, c'est joie et plaisir. On a pris vraiment un vrai plaisir à tous travailler ensemble. On rigole beaucoup dans ce groupe, on a un groupe qui aime bien rire. Et puis, il y a une vraie satisfaction, je crois, de créer ensemble, d'aller jusqu'au bout. On a déjà fait une représentation au Rex il y a 10 jours. Et quelle joie, quand ils sortent de scène, pour moi, de dire « le public est content, eux ont pris plaisir à jouer ». C'est ça la force du groupe, c'est le plaisir ensemble en fait.
Est-ce que tu as vu évoluer des personnes justement au fil des ateliers entre ta première rencontre, tes premiers pas dans la troupe et aujourd'hui il y a eu une année qui s'est écoulée ?
C'est surtout flagrant ceux pour qui c'est la première année. Oui. Ceux qui arrivent, qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas, puis qui d'un seul coup nous font des grandes tirades comme ça et ça part dans tous les sens. Et puis on sent un lâcher prise. On ose, en fait.
J'allais te demander qu'est-ce que ça change humainement, cette pratique. C'est intéressant. À la fois, on joue un personnage et à la fois, j'ai l'impression qu'on va puiser dans quelque chose de soi. On dépasse ses limites. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'imagine que ça va même au-delà des exemples que je te donne là maintenant.
Alors moi, je fais du théâtre depuis longtemps, maintenant, avec toute forme de public différente. Et là, par exemple, je sors de l'IME, de Château-Gontier. Et donc, je travaille avec des publics aussi spécifiques. Et je prends souvent l'exemple d'un jeune qui est arrivé l'année dernière en milieu d'année, un espèce de grand gars d'1m80 qui avait quasiment le menton collé au sternum, je sais pas faire, qui est tout bloqué dans son corps, et qui cette année est là en me disant « Ah oui, mais attends, parce que là on pourrait faire ça ». Je crois que ça permet de gagner en confiance en soi, ça permet mieux connaître tout notre fonctionnement émotionnel et peut-être d'être juste plus serein avec soi-même. Voilà.
C'est intéressant, j'aime bien comprendre notre fonctionnement émotionnel. Je me dis effectivement, ça peut faire écho à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, si on vient particulièrement à cette pièce qui va donc se jouer ce week-end 1925 au comptoir des Années Folles. Qu'est-ce qui t'émeut ou te touche particulièrement, toi, dans ce spectacle-là qui a été joué, tu le disais, il y a quelques jours, une dizaine de jours, avec cette première représentation? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'en dire? Est-ce que tu redécouvres des choses? Une fois qu'on le joue devant un public, j'imagine qu'on le regarde un peu autrement, ce spectacle.
Ah, moi, le samedi au Rex, ils m'ont épaté, quoi. Ils n'ont jamais été aussi bons. J'étais hyper fière, vraiment. En fait, je ne peux pas dire, par exemple, que j'ai un personnage préféré, parce qu'ils traduisent tous une époque. Par exemple, on a une sorte de diseuse de bonne aventure, où le spiritisme, en 1925, était très présent. On va avoir, on a dit, les peines sardines. On a un poilu qui, lui, est rentré quand même blessé, farouche. Et on a les tenanciers du bar. Et donc, monsieur et madame Thénard. Alors, madame Thénard a un côté un peu naïf, hyper touchant. Et monsieur Thénard, c'est un bougon qui, de toute façon, bon, est là pour faire de l'argent. Bon, voilà, comme ça. Et on a, voilà, la petite servante, Anna, qui, elle, voit bien que le monde évolue et qu'il se passe quelque chose. Et qu'elle, elle aimerait bien que sa condition, elle change un peu, mais elle est encore un peu timide. En fait, ils ont tous presque une histoire au sein de l'histoire. Ils ont tous... on a travaillé comme ça. Qui est ton personnage? Il a quel âge? D'où est-ce qu'il vient? Quels sont ses traits de caractère? Et du coup, ça permet d'avoir des personnages qui sont très vrais dans ce qu'ils sont. Par exemple, monsieur Thénard, ce qui fait la force de son personnage en interprétation, c'est les onomatopées. Parce qu'il est toujours là. Oui, non, mais quand même, quoi. Et c'est les onomatopées qui ont créé le personnage. Et donc, ils ont tous des petites caractéristiques comme ça, les surréalistes. Eux traduisent une époque qui est beaucoup plus intellectuelle, on veut refaire le monde, on a un côté très idéal, on a envie que le monde s'améliore, qu'il n'y ait plus d'impôts, qu'on vive d'amour et de poésie, que les gens s'élèvent, que la radio, justement, l'arrivée de la radio, soit une forme d'ouverture. Alors après, on verra avec la télévision, Internet, c'est la suite. Il y a un vrai idéal, et puis on sait, nous, ce qui va se passer ensuite. Mais en fait, chacun apporte sa tranche de vérité d'une époque.
On le sent à travers tes mots et ton enthousiasme, il y a de l'humour dans cette pièce.
Oui.
Et je me dis, c'est quand même quelque chose, enfin j'imagine, assez particulier à travailler. On a tous un humour un peu différent. Comment est-ce qu'on donne vie avec tous ces profils, tous ces personnages différents? J'imagine que justement la différence aussi peut créer quelque chose quand on est extérieur et qu'on est spectateur. On rit de choses qui nous font peut-être écho des fois, qui font écho à nous-mêmes ou à des proches.
Ouais, carrément. Moi, ce qui est très drôle, c'est que quand j'écris ou je réécris, en fait, j'entends la voix de la personne qui va le jouer. Donc, je sais des fois la manière dont elle va le dire. Et donc, c'est ça qui fait que y a aussi des personnages qui sont écrits en fonction de la personne. Enfin, je sais que ce personnage collera à cette personne-là. Pas tous à 100%, mais c'est la manière dont chaque comédien et comédienne s'est approprié, en fait, son rôle. Et l'a mis et dans son corps et dans sa voix et dans son énergie que vraiment, bah voilà, il y a ce panel qui est divers, qui est drôle, qui est touchant. Enfin, vraiment, ils sont 14, donc il y a plein de cartes à jouer, quoi. C'est hyper intéressant.
Tu vas me dire si ma question est pertinente, mais j'imagine qu'on choisit une époque, effectivement, pour tout ce qu'elle permet. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas des fois le meilleur prétexte pour parler de l'actualité, du monde et de la société telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'en écrivant, tu as un peu puisé là-dedans? Des fois, ça peut peut-être se faire inconsciemment. Ou est-ce que pas du tout, finalement, un moment, quitter le monde d'aujourd'hui pour aller ailleurs, ça fait pas aussi du bien? Je sais pas, dis-moi.
En fait, ce qui est rigolo, par exemple, il y a un espèce de petit Gavroche qui arrive à un moment et qui présente les inventions. Et donc, en 1925, la raclette à vitre a été inventée. Voilà, avec un côté pour laver, un côté pour essuyer. Et il y avait une machine qui n'a pas été gardée, d'ailleurs, qui s'appelait le moto-laveur et qui permettait de laver et le linge et la vaisselle. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que la peine sardine qui arrive de Bretagne, la maman qui est toute perdue à Paris, elle dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos mains ?» Et après, il y a l'arrivée de la radio. Et ils sont tous là, avec plein de réactions. Il y a ceux qui connaissent, les surréalistes un peu plus, et nos petites peines sardines qui, elles, ne savent pas. Enfin, elles découvrent en disant mais monsieur Chevalier, il est où, quoi? Il est dans la boîte. Enfin, et avec cette peur. Et ça, on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, avec par exemple l'IA. Tout ce qui est. Chaque époque, la radio, mais qui nous dit qu'on ne nous mentira pas? Comment on saura que ce qui est dit est vrai? C'est toujours un outil, mais ça peut être une arme. Et ça marche sur toute la technologie depuis un siècle, quoi.
Et donc, il y a un petit écho, toujours avec humour et légèreté. On sent qu'on va passer un bon moment et qu'on a déjà passé un bon moment pour peut-être l'auditeur de l'autre radio qui était présent il y a une dizaine de jours. On va vous retrouver donc ce week-end, je le disais, lors de la 35e édition du Festival d'art de rue La Chalibaude. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour la compagnie des Deux Rives, de pouvoir jouer dans ce cadre-là, à ce rendez-vous-là qui existe depuis maintenant aussi quelques années?
Moi, je trouve ça très, très important que il y a un espace pour les professionnels pour jouer. Et là, je défends ma cause aussi en tant que comédienne. Je trouve ça très bien. Et je trouve très bien que ça soit mêlé aussi avec tout le tissu associatif local. En fait, les deux sont complémentaires. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et chacun à son niveau va apporter. Et ce qui permet que le spectateur va voir vraiment une diversité de spectacles, avec une diversité de sujets, de propositions, de thématiques, avec plein de manières de l'aborder avec des grosses formes comme nous à 14. Ce qui aujourd'hui, avec des comédiens professionnels à 14, c'est juste financièrement impossible, mais ça permet en amateur d'avoir des grosses formes, en professionnel d'avoir des plus petites et avoir vraiment des sujets très variés. Donc moi je trouve cette diversité hyper intéressante.
J'allais te demander, est-ce que tu aurais un mot à donner à l'auditeur de l'autre radio ou à l'auditrice pour l'inciter à venir découvrir la pièce, mais je crois qu'il est presque dit, il y a peut-être autre chose.
Ah non, mais même je vais aller plus loin, aller voir des spectacles, garder la culture vivante, s'il vous plaît, c'est grâce à vous.
Et donc, pour rappeler à l'auditeur les rendez-vous que tu nous donnes avec la compagnie des Deux Rives, ce sera ce week-end avec le spectacle, la pièce 1925 au comptoir des années folles, ce sera à découvrir samedi à 20h, dimanche à 15h30, Place Chevreul, c'est bien ça?
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce très bon moment, Virginie. Avant de continuer avec notre reportage Pensée locale de la semaine, on fait un pas de côté, Manek. La musique prend le relais et c'est toi qui as choisi un morceau.
Alors, j'ai choisi Los Angeles de Siaka, car elle fait partie de mes morceaux préférés. Et aussi parce que c'est une des seules chansons de cet artiste qui va sortir un nouveau titre dans pas longtemps.
Merci Manek.
Une superstar à Los Angeles. Une sale histoire.
Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître. J'ai toujours qui peut mettre au tapis, je suis bon en maths, mais pas assez pour résoudre mes problèmes. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais parfois souffrir nous rappelle qu'on est en vie, le pouvoir du groupe ne m'influence pas. Au sommet, on est toujours tout seul. Je crois en moi, c'est ça ma force. Ici-bas, le monde n'est pas si beau. Derrière Siaka, il se cache une histoire. Tu sais, on choisit pas sa famille. Je remercie ma mère et le bon Dieu. La musique m'a sauvé. Peut-être qu'à cette heure-ci, je serai encore dans la cahier. Combien voudrait me signer? Et pour pas trop parler, seulement regardez-moi. Je vais finir comme tous ces talents oubliés. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître.
Je me rapproche de la mort, pourtant me sois-tu long. On a séché les cours pour avoir du liquide. À part au bowling, tu verras pas faire tomber nos boules. Et pendant que tu doutes de toi, ils sont effrayés par ton talent. Non, je suis pas le meilleur en français, mais j'ai des lyrics que ma prof est incapable de faire. Elle a vu que je suis dans le son, donc pour faire du bruit, elle dit qu'elle est enceinte. On a tous une bouche, c'est vraiment, ça sert pas pour faire les mêmes choses. Tu t'en sortiras jamais tout seul, on manque de vie en potentiel. Non, c'est pas une honnête en fesse, ça ne l'est de pas l'assumer. On est mieux servi que par soi-même. Combien sont chez moi, retourner leur veste. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça pour du bénéf. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais mon amour pour toi ne va pas disparaître.
Na 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 na
cap sur Nantes et sur ce qui se joue au bord de l'eau. Améliorer la qualité des milieux aquatiques de l'Erdre dans une approche globale. Oui, le syndicat mixte, l'EDEN, comme entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, est chargé de coordonner la reconquête du bon état de la qualité des milieux aquatiques de l'Erdre et de ses affluents. Une approche qui va au-delà de la seule question de la qualité de l'eau et qui se penche sur l'eau, les berges, les affluents et la biodiversité. C'est le reportage Pensée locale de la semaine. Il est signé Michel Sourget de Alternante FM qui a échangé avec Yuen Fénard, directeur de l'EDEN, au fil d'une déambulation sur la rive droite de l'Erdre à Nantes. Yuen Fénard nous éclaire sur les notions de propreté, de qualité de l'eau et plus largement de santé écologique d'un bassin versant approché dans son intégralité. Écoutez.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Si vous deviez qualifier la qualité de l'eau de l'Erdre,
je la trouve meilleure que par rapport à quelques années, je crois. Mais bon, je ne suis pas un fin connaisseur. Mais moi qui me balade le long très souvent, je me rends compte qu'elle fait un peu plus propre. Mais bon, après, pour me baigner là-dedans, j'irai pas. Ni dans la Loire.
Quand vous dites elle fait un peu plus propre, qu'est-ce que ça veut dire?
Je la trouve un peu plus claire par moment. Alors après, je trouve qu'il y a peut-être moins de saleté dedans, moins de déchets peut-être.
Pour vous, une eau propre, c'est une eau claire?
Ah bah, je peux me tromper aussi, hein. Pour moi, clair, c'est propre, oui, mais bon, après, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer vraiment le truc. Mais après, pour aller me baigner là-dedans, puis à mon âge maintenant, il faut être plus jeune.
Pour éclairer Jean-Claude et nous éclairer sur ces notions de propreté, de qualité de l'eau, de santé écologique, interrogeons Yuen Fénard, directeur de l'EDEN, entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, un syndicat mixte chargé de coordonner la reconquête du bon état écologique de l'Erdre et de ses ruisseaux affluents.
Il ne faut pas confondre la qualité de l'eau avec la qualité des milieux aquatiques.
Oui, ça c'est un concept qu'on essaye d'expliquer régulièrement parce qu'il n'est pas forcément immédiat. Nous, l'EDEN, notre objectif, c'est de retrouver le bon état des milieux aquatiques. Et le milieu aquatique, c'est tout le territoire, c'est l'eau, c'est les berges, c'est les affluents, la biodiversité qui vit dans la rivière. Et dans cet ensemble, les milieux aquatiques, il y a la qualité de l'eau, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire est-ce que l'eau est polluée ou pas. Mais l'approche est plus large que cette seule qualité de l'eau, même si la qualité de l'eau est un enjeu qui est important. Mais on a tendance à dire souvent qu'on pourrait avoir, par exemple, une rivière qui a dedans une eau de qualité parfaite, une eau de notre piscine, une eau potable. Et pourtant, ce serait une rivière qui ne serait pas forcément en bon état écologique parce que cette eau, même dans sa qualité parfaite, ne serait pas forcément le support d'une biodiversité ou d'une vie biologique normale parce qu'il pourrait, par exemple, y avoir des barrages qui empêchent la reproduction des poissons ou des berges canalisées qui empêchent la nidification de ces mêmes poissons, les micro-organismes de se développer, etc. Donc, c'est toute cette différence entre la qualité de l'eau. Enfin, c'est pas une différence, c'est toute cette complémentarité entre cette qualité de l'eau qui est elle-même une des indispensable de la qualité des milieux aquatiques et c'est ce système global dont on recherche in fine la qualité.
Pensée locale, un enjeu de société.
Un mot à définir, l'eutrophisation.
L'eutrophisation, là encore, un concept qui est pas forcément complètement intuitif. L'eutrophisation, c'est un déséquilibre. C'est un cours d'eau qui va avoir trop de nutriments. Alors effectivement, on peut avoir tendance à dire, bon bah dans un jardin, plus il y a de nutriments, plus les plantes sont en bonne santé, plus les plantes sont grandes, etc. Bah, cet équilibre, il n'existe pas forcément dans les rivières. Et si on a trop de nutriments, donc ces nutriments sont surtout l'azote et le phosphore, on va avoir des développements d'algues, des algues comme on l'entend, des macro-algues, des grandes algues, ou des micro-algues, des algues microscopiques, qui peuvent, suivant les quantités, finalement se développer très vite, et ou dans le cas des macro-algues, obscurcir complètement, c'est-à-dire le soleil ne va pas aller jusqu'au fond, et vous allez changer le fonctionnement de la rivière, et ou dans la vie biologique des plantes, ça consomme de l'oxygène et appauvrir complètement le milieu en oxygène. Donc l'eutrophisation, c'est ce phénomène lié à la concentration, à la surconcentration en nutriments qui dérègle et qui appauvrit finalement les milieux, là où on pourrait se dire qu'on les augmente. Elle revient vite cette notion du propre, en fait, qui est bien compréhensible, mais qui n'est pas appropriée à ce qu'on cherche. Si on montre des photos d'un cours d'eau en bonne santé écologique et d'autres cours d'eau qui peuvent être considérés comme très dégradés, la question du propre va peut-être être beaucoup plus proche des cours d'eau tout droit, bien entretenus, bien dégagés, alors que pourtant, on ne considère pas ça des cours d'eau en bonne santé qui pourraient avoir des branchages qui sont dans l'eau, des bras morts avec une eau un petit peu stagnante, qui ne sont pas propres. Et donc, cette notion de propre, il faut savoir qu'elle existe, mais il faut un peu travailler avec et peut-être la déconstruire ou remonter aux sources pour reconstruire autre chose.
Merci Jean-Claude.
Ah ben, il n'y a pas de quoi.
Profitez du soleil. Et si vous vous baignez, il suffit de pas boire la tasse, c'est tout.
C'est fini.
Ah, on en discutera.
Merci à Yuen Fenard, directeur de l'Éden, et merci à Jean-Claude pour leur libre participation à ce programme.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et mine de rien, l'heure tourne. On va bientôt rendre l'antenne. Pas de chronique juridique aujourd'hui. Priscilla a rangé ses codes dans un sac de plage. Elle ne reviendra qu'à la rentrée, bronzée et pleine de jurisprudence. Mais avant ça, il nous reste un petit plaisir musical. C'est Manek, notre stagiaire du jour, qui a carte blanche pour choisir le deuxième titre de l'émission. Alors Manek, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors, on écoute Piano de Werenoi et de Gims, car Werenoi fait partie de mes chanteurs préférés et que c'est une de ses dernières chansons qui est sortie avant qu'il meure.
Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano. J'arrive en retard, je sors de la caisse. Y'a full up de fans qui me pointent de l'index. Il a pas de quoi tenir tout le mois. C'est sûrement pour ça qu'il tape dans la caisse. Évidemment, c'est sans équivoque. Si tu vois mon ex, ne donne pas l'adresse. Je repère au loin un mec de mon tiex. Donc je me lève en stretch, je check de la tête. Ça va sortir maximum beat, du linen gris, des sons à la pointe de la tech. Ça va sans dire, ça va gravir. Soit tu fais de l'oseille, soit tu taffes les pecs.
Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je monte la vie du monstre. Y'a trop d'œil sur la montre.
Y'a trop d'œil sur le coupé sport. Donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions. Follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano.
Sors de l'hôtel de Paris, je croise une meuf que j'ai bloquée sur Insta. Tu veux coller comme tu chutes bien gras, mais t'es fumant comme un rasta. Tu veux nos vies à nous, la télé dans le piano. Tu peux pas suivre la note, c'est pas celle du piano. On arrive en équipe, t'es malade again, toi t'as pas la gueule,
toi t'as pas l'étal.
Tu vois pas la ken, j'arrive à la caisse, il veut que la toffe, donc je fais la toffe.
Je paye pas,
je remonte dans la caisse. Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je remonte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre.
Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano.
Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je monte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre.
Dis Mimi, tu crois qu'on passera un jour dans l'émission ?
Ben faudrait déjà que tu arrives à faire une phrase, mais sans faire de blagues.
Et c'est sur l'autre radio. L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Virginie d'avoir été avec nous. Merci à Manek, mon copilote du jour. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, Manek ?
Oui, Margot, mais maintenant, l'auditeur veut savoir ce qu'on écoute sur les ondes de l'autre radio.
Et oui, Manek, la soirée commence à 19h avec notre rendez-vous philo, la sagesse de Tug. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre cher Tug se penche sur une grande question. Notre avenir dépend-il de la technique ?
Ensuite, Margot, je crois que c'est All Blues qui arrive sur les ondes.
C'est exact, Manek, ça commence à 21h. Il semblerait que l'émission, grâce à Julia, va nous faire un peu danser. Merci, Manek, à très bientôt.
Merci à toi.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous serons avec Gérard Dentier-Colombo, Phil, passionné et président de l'association Les Messagers Lavallois. Nous parlerons de pigeons voyageurs dans le grand format de cette semaine. D'ici là, laissez-vous un peu de marge. Comme on déborde exprès en coloriant, ça fait du bien de ne pas toujours suivre les contours. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.